France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Sortilège, Jules Michelet métamorphose la sorcière. C'est en 1862 que Michelet, déjà historien de renom avec sa monumentale histoire de France, fait paraître La Sorcière. Des livres que j'ai publiés, celui-ci me paraît le plus inattaquable. Il ne doit rien à la chronique légère ou passionnée. Il est sorti généralement des actes judiciaires. Voilà ce qu'écrit Michelet dans une préface postérieure. Et nous sommes envoûtés.
Par sa finesse, sa malice, souvent fantasque et bienfaisante, elle est sorcière et fait le sort.
Attendez, je m'en charge, ça ne traînera pas. Attendez, mes petits agneaux, on va vous préparer quelque chose, attendez. Un philtre mortel, mais séduisant pour le regard, et si doux quand on le respire.
S'il guérisse, c'est que je suis une sorcière. Et de toute façon, ils ont peur de moi.
Eh bien, mon bon Satan, partons. Car j'ai bien hâte d'être là-bas. L'enfer vaut mieux. Adieu le monde.
Le cours de l'histoire.
Avec des sorcières aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Paul Petitier, bonjour.
Bonjour Xavier Mauduit.
Vous êtes professeur émérite de littérature française à l'Université Paris-Cité. Vous êtes l'autrice de La Pensée sorcière, Michelet 1862, publié aux éditions du CNRS. Et puis, il y a cette édition de La Sorcière de Jules Michelet que vous préfacez. Parce que cette sorcière va nous intéresser aujourd'hui, celle de Michelet, mais globalement, cette vision de la sorcière, et pour en parler aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Léla Charboyi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, conservatrice en chef des peintures et des arts graphiques au musée d'Orsay. Vous êtes la co-commissaire avec Sophie Kervan de l'exposition qui a lieu au musée de Pont-Aven. Ça se trouve en Bretagne, mais en lien avec le musée d'Orsay. Sorcière 1860-1920, fantasme, savoir, liberté. On peut dire que c'est un personnage incontournable du 19e siècle dans la littérature, dans la peinture. Cette sorcière, Paul Petitier.
Oui, il y a une floraison absolument remarquable de sorcières dans tous les arts et dans la littérature de la seconde moitié du 19e siècle. Surtout, ça se prépare un peu avant, mais là, c'est l'explosion et peut-être que Michelet donne le coup d'envoi.
Oui, on peut dire que c'est un personnage romantique. Alors, on parle de la littérature, bien sûr, on peut dire la même chose dans la peinture.
Oui, effectivement, il y a un regain de la figure de la sorcière avec le romantisme, et puis un petit peu, elle est un peu plus discrète dans les années 40, et il y a une forme de second romantisme à partir des années 60, et avec le symbolisme, la sorcière là s'épanouit pleinement.
Mais Jules Michelet, sa sorcière date de 1862, c'est-à-dire que nous sommes quand même bien après le romantisme. Il est héritier de toutes ces sorcières qui ont été mises en avant par le passé depuis le début du 19e siècle.
Évidemment, et pas seulement de celles qui ont été mises en avant depuis le début du 19e siècle. La sorcière, c'est tout de même un personnage qui a un très long passé et qui n'a jamais vraiment connu d'éclipse. En fait, ne serait-ce qu'à travers les sorcières des contes. Et donc, Michelet hérite du romantisme, il hérite surtout du début de la transformation de la figure de la sorcière qui a été faite par notamment par George Sand, dont il était pour laquelle il avait pas mal de sympathie, et donc la petite fadette ou des personnages comme Jeanne, un personnage d'un roman qui porte ce nom dans les années 1840, sont le matériau qu'il va remodeler pour fabriquer sa sorcière mythique.
George Sand et la petite fadette sont avec nous.
Éventer. Si les feuilles sont éventées, la potion n'est plus amère. La potion n'est plus amère. Il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Il ne guérisse pas. Et s'ils ne guérissent pas, c'est que je leur veux du mal. Oh, oh. S'ils guérissent, c'est que je suis une sorcière. Et de toute façon, ils ont peur de moi.
Adaptation de La Petite Fadette de George Sand en 1963. Avec ce roman, nous avons une sorcière. Qui est cette sorcière présentée par George Sand, Paul Petitier?
Alors, c'est une très jeune fille qui est la petite fille d'une femme considérée comme une sorcière rurale, une rebouteuse, une jeteuse de sorts éventuellement. Et George Sand va la traiter à la fois, va montrer comment elle peut être vue et crainte, comme si elle avait des pouvoirs particuliers par les villageois et par le garçon dont elle va tomber amoureuse et qui va tomber amoureux d'elle. Mais le propos de George Sand est de montrer que c'est malgré tout de la superstition, que ce personnage a une valeur particulière, a une forte personnalité, mais que malgré tout, ce que les paysans prennent pour des pouvoirs surnaturels n'est que un usage plus aigu, plus affûté de la raison, de la bonté aussi, que celui des gens qui l'entourent. Donc c'est une fausse sorcière d'une certaine manière.
Avec ce personnage de la sorcière, nous avons quelqu'un de très complexe à analyser, Leïla Gerbois. Dans cette figure de la sorcière, on a ici le reflet de ce que l'auteur ou l'autrice désire dire aussi de sa société. La sorcière créée par George Sand dans les années 1840, c'est aussi le reflet voulu par George Sand de cette figure de la sorcière.
Oui, chez George Sand, La Petite Fadette, c'est aussi une personne, enfin une femme qui assume ses désirs, ce qui est très mal vu à cette période. Et en fait, la sorcière, ça devient plutôt la cristallisation des désirs masculins, à tel point qu'elle se condense à la fin du 19e siècle en la femme, avec une majuscule. Et c'est vraiment, toute femme devient quasiment une sorcière avec l'apogée de la femme fatale, qui est vraiment un mythe omniprésent dans les arts de la fin du 19e autour de 1900.
Oui, d'ailleurs, c'est une histoire genrée. Évidemment, puisque le sorcier apparaît moins ici dans cette histoire, sachant que par le passé, sorcier avançait main dans la main, mais désormais, on sent bien qu'ils sont nettement séparés. C'est la sorcière qui fascine.
C'est le geste fondateur de Michelet, c'est de féminiser la sorcière et de souder femme et magie. Il commence son livre par de très belles formules posant cette équivalence. La sorcière est femme, et quand les hommes s'en mêlent, ils gâtent tout. Donc c'est cette conjonction finalement qui va lancer la sorcière fin de siècle dans un contexte où misogynie et émancipation de la femme sont en lutte, sont en tension, la sorcière devenant une sorte de symbole de cette lutte des représentations et des idées autour de la femme.
Puis cette sorcière évoque le Moyen-Âge. Il faut quand même évoquer cet attrait qu'a le 19e siècle pour un Moyen-Âge, non pas dans ce qu'il était, mais pour ce qu'il est fantasmé. Alors ça, en peinture, c'est sûr que c'est la régalade.
Oui, effectivement, Victor Hugo est un peu celui qui lance le bal, en quelque sorte, avec Esmeralda. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a des illustrations pour Notre-Dame de Paris. Et puis après, dans les années 70, il réalise tout un procès fictif, en fait, qui s'appelle Le Poème de la Sorcière. Donc, c'est un ensemble de dessins magnifiques prêtés par la maison de Victor Hugo, où il met en scène les protagonistes d'un procès imaginaire. On voit la sorcière, la démone vue en rêve, les inquisiteurs, les juges, et vraiment tous les protagonistes. De manière un peu caricaturale et aussi très critique. Il y a vraiment une dimension toujours très actuelle, au fait, sur l'image de la sorcière comme victime de superstition, voilà.
Oui, puis ce personnage nous renvoie à un passé, je le disais, fantasmé, sans doute celui du Moyen-Âge. Mais malgré tout, s'il est fantasmé, il permet de mettre en avant cette période longtemps décriée. Ce qui se passe au 19e siècle autour du Moyen-Âge, c'est intéressant. C'est ce qu'on voit vraiment en littérature. Il revient, ce Moyen-Âge, heureusement. Alors, bien sûr, plein de clichés. Mais enfin, en tout cas, on le traite d'une autre manière.
On le traite d'une autre manière et ça évolue au cours du siècle, puisque les romantiques découvrent un Moyen-Âge qu'ils vont plutôt, célébrer, dont ils vont montrer la richesse, dont ils vont montrer la culture. Il y a le fameux texte de Michelet sur les cathédrales du Moyen-Âge qui sont comme les grandes fleurs de cette culture médiévale qui se développe. Et puis, il y a un tournant au milieu du siècle parce que les conservateurs, les royalistes, les catholiques s'emparent de ce Moyen-Âge réhabilité par les romantiques pour en faire une période idéalisée, mais comme période d'ordre, hein, de cohésion sociale sous un système hiérarchique. Et donc, à ce moment-là, en tout cas chez Michelet, le Moyen-Âge va devenir aussi va basculer du côté du Moyen-Âge gothique effrayant et oppresseur.
Oui, celui qu'on retrouve d'ailleurs, on l'a évoqué dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.
Rien n'était plus courant alors qu'un procès de sorcellerie intenté à un animal. On trouve dans les comptes de la prévôté pour 1466 un curieux détail des frais d'une action poursuivie contre une truie que l'on emprisonna 10 jours avant de la pendre. Parfois même, on allait plus loin que les bêtes. Les capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire infligeaient de graves peines aux fantômes enflammés qui se permettaient de paraître dans l'air.
Si le démon qui possède cette chèvre et qui a résisté à tous les exorcismes persiste dans ses manœuvres, nous le prévenons que nous serons forcés de requérir contre lui le gibet ou le bûcher.
Oh, il répond.
Huissier, passez-moi le tambourin de l'accusé. Janet répondait, quelle heure est-il ?
Oh, 7 heures. Regardez, il est vraiment 7 heures.
Mais vous voyez bien que c'est une simple coïncidence. Oh, enfin, cette pauvre bête ne sait pas ce qu'elle fait.
Mais comment ça, ne vient-elle pas de l'affirmer, au contraire?
Mais ça ne prouve rien, vous dis-je. Rien, absolument rien.
C'est le procès de la chèvre d'Esmeralda, une adaptation 1957 du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, que Jules Michelet a lu sans doute, on ne peut pas imaginer le contraire. On ne peut pas ne pas avoir lu au 19e siècle Notre-Dame de Paris, j'ai presque envie de dire, aujourd'hui on peut le faire encore. Mais voilà, cet imaginaire-là est présent chez Victor Hugo, mais Victor Hugo n'est pas un historien. Victor Hugo, c'est de la littérature. Mais en tout cas, il nous propose une belle sorcière.
Oui, et puis on peut dire aussi que ça n'est pas parce qu'on écrit de la littérature qu'on n'a pas, qu'on ne construit pas non plus un discours sur l'histoire. Hein. Bien sûr, il n'est pas, il ne repose pas sur les mêmes procédures, mais pour autant, il dit des choses aussi sur le passé, sur la mémoire du passé et sur le rapport entre le passé et le présent.
Oui, parce que c'est vraiment cela, hein, c'est ce lien entre le passé et le présent que l'on retrouve dans La Sorcière. C'est ce côté un peu intemporel qu'on a là. Je pense que c'est ce qui fascine. Vous n'avez pas cette impression-là, vous aussi, quand on regarde toutes ces peintures, c'est se plonger dans un temps comme ça, qui paraît très lointain, avec des pratiques qui semblent ne jamais changer.
Oui, avec Esmeralda, il y a une double distance, un double exotisme. Il y a à la fois le Moyen-Âge, mais aussi le fait qu'elle est qualifiée d'égyptienne, de bohémienne. Et c'est aussi en cela que ce livre résonne toujours, puisqu'en fait, c'est l'étrangère, celle dont on se méfie, parce qu'elle ne fait pas partie du petit cercle, en fait, de l'entre-soi. Elle est celle qui apporte une forme de contre-culture, finalement, la culture du peuple. C'est aussi très politique, la sorcière.
J'abonde dans ce sens, car ce qui plaît aussi aux romantiques dans le personnage de la sorcière, c'est qu'elle est une paria. Et le romantisme explore ce monde des parias, des laissés pour compte de la société. Et le plus intéressant, c'est qu'il l'explore en montrant le pouvoir qu'on leur prête et peut-être qu'ils ont justement parce qu'on leur prête. Et vraiment, ça va se retrouver jusque dans jusque chez Michelet et avoir ensuite la postérité qu'on connaît, c'est-à-dire femme victime, bien sûr, mais aussi femme puissante, ce qui constitue l'actuel noyau de la figure féministe de la sorcière. Et Esmeralda est tout à fait dans cette lignée-là, à la fois victime à travers le procès qu'on lui intente, et elle sera exécutée à la fin, mais aussi, comment dire, exerçant son pouvoir, alors qui est surtout un pouvoir de charme. Mais charme, il faut entendre aussi la magie derrière charme. Hein. Carmen, en latin, c'est aussi c'est le vers, c'est le charme.
Carmen, mais quand on parle de la Carmen de Bizet, on y est là.
Totalement. C'est une sorcière, ça c'est absolument indéniable.
Indéniablement une sorcière. Leïla Jarboué, quand on se met à réfléchir à la figure de la sorcière, particulièrement au XIXe siècle et autour de ce qu'a pu écrire Julie Michelet. Il y a une typologie qui se met en place où on voit des sorcières absolument monstrueuses, vous savez, un peu du type qui habite au fond de la forêt, de vieilles dames qui font un peu peur, hein, honnêtement. Et puis après, il y a la sorcière qu'on a évoquée, extrêmement séduisante. On voit comme ça se distinguer plusieurs figures de sorcières.
Oui, effectivement, il y a plusieurs figures de sorcières qui apparaissent dans l'iconographie. Alors, une forte séparation entre les âges aussi, hein, mais c'est les deux faces de la même femme maléfique. Donc, il y a une différence entre les vieilles peaux, entre guillemets, et les allumeuses fatales, qui, elles, sont plutôt les jeunes, mais qui portent en elles le mal que leur transmet les vieilles peaux. Donc, c'est quand les femmes âgées sont assez stigmatisées, hein, dans la société et dans l'art. On a rarement des femmes âgées comme allégorie de savantes. Elles sont plutôt liées à l'allégorie de l'envie. Est très liée aussi à la figure de Méduse, avec des serpents qui sifflent sur leur tête. Alors, on a aussi une médicalisation des sorcières au XIXe siècle, donc une représentation des hystériques, des aliénés, des épileptiques, qui sont en fait une forme de sorcières modernes, mais totalement contrôlées par le corps médical, qui sont une forme finalement d'inquisiteurs ou de bourreaux paisibles, on va dire. Et Nicole Jacques Lefebvre, d'ailleurs, consacre un texte dans le catalogue à ce sujet, donc comment l'hystérie devient la figure de la sorcière. D'ailleurs, tous ces médecins s'intéressent aux ouvrages de démonologie.
Ah oui, c'est-à-dire que le médecin va regarder l'ouvrage pour...
Il les réédite, oui.
Il les réédite pour savoir comment expliquer ce qui fascine ce 19e siècle, masculin particulièrement, l'hystérie. C'est l'invention de l'hystérie, c'est absolument sensationnel, Paul Petitier.
Mais il y a aussi, alors s'ajoute à la figure de l'hystérique, le fait que le 19e siècle, paradoxalement, c'est un siècle très rationaliste, très positiviste, et donc qui va renvoyer les sorcières aux superstitions dépassées, mais... Au XIXe siècle, en même temps, il y a une grande vogue du spiritisme, du magnétisme, des médiums. Et donc, les représentations de la sorcière sont aussi sous-tendues par cet attrait pour le paranormal qui est très, très présent dans la deuxième moitié du siècle.
Oui, c'est ce qui nous paraît à nous extrêmement rationnel pouvait paraître par le passé, et cela depuis l'Antiquité, proche du paranormal.
Il est très probable que ce soit l'organe qui se trouve au principe de ce qui pour l'homme est redoutable, à savoir le mystère féminin. Cette chose qu'on ne voit pas. L'utérus est un viscère. On n'en voit rien. Il faut attendre l'ère des autopsies ou des interventions chirurgicales pour que l'utérus soit représentable. Ce qu'Hippocrate se représentait sous cet utérus migrateur, ça n'est pas forcément ce muscle en forme de poire que nous connaissons pour l'avoir vu dans les traités d'anatomie ou pour l'avoir vu in situ au cours des interventions chirurgicales, pour l'avoir vu fixé dans le formol sur des organes prélevés. Nous n'avons pas d'idée très précise de ce que pouvait être pour Hippocrate la représentation de cet utérus, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est un représentant, cet organe, de la chose cachée, de la chose effrayante.
Et là, nous venons d'entendre le psychanalyste Lucien Israël qui s'exprimait à propos d'Hippocrate, ce qui nous conduit dans l'Antiquité, l'Antiquité lointaine, qui imagine l'utérus comme un animal qui se balade un peu partout dans le corps. C'est cela aussi qui nous permet de comprendre la sorcière de Michelet. C'est ce nouveau regard porté sur la femme, avec l'idée au 19e siècle que c'est l'utérus qui l'a conduit. Je trouve ça absolument sensationnel, hein, de se dire que ainsi les hommes se privaient de tout questionnement vu qu'ils n'avaient pas d'utérus en soi. Mais la sorcière de Michelet en 1862 s'inscrit dans cette réflexion-là, hein, vous le disiez, la salpêtrière, les expériences sur l'hystérie.
Oui, les artistes et les écrivains qui sont très liés aux artistes, enfin à la fin du 19e siècle, il y a vraiment une porosité entre littérature et art plastique. Enfin, résume la femme à la luxure. Enfin, on a Huysmans, notamment, qui inspire beaucoup les artistes, qui développe beaucoup ça dans ses ouvrages. D'ailleurs, un de ses livres s'appelle « À rebours » et Michelet parle de la magie comme la médecine à rebours. Donc là, la sorcière, finalement, à rebours, c'est aussi la sorcière. D'ailleurs, il parle de Salomé de Gustave Moreau, qui est vraiment une sorcière. Et donc, la femme devient le symbole de la transgression sexuelle, devient le désir, le gouffre du désir que les hommes ne connaissent pas. Et au même même moment, les femmes essayent de se l'approprier. C'est très difficile encore pour des artistes femmes de représenter le désir. On le voit avec Camille Claudel qui finalement s'attaque à ce sujet et finit internée. Et c'est très difficile aussi pour les femmes médecins. Déjà, les femmes n'ont pas le droit d'accéder à la médecine, mais on a Madeleine Pelletier qui est une des premières psychiatres au début du XXe siècle et qui va finir internée parce que justement, elle s'intéressait à des questions qui devaient relever du domaine masculin.
Oui, ça c'est le domaine masculin pour la domination à la fois sur le discours médical et concrètement dans la société sur l'ensemble des femmes, avec cette sorcière de Jules Michelet qui paraît en 1862. Dites-nous, Paul Petitier, qui est Jules Michelet en 1862? C'est déjà un grand historien, il est reconnu, il a fait son histoire de France.
Il est en train de la finir, il est effectivement, il est reconnu, mais il est marginalisé lui-même par le Second Empire, puisqu'il est un opposant, comme Victor Hugo, au Second Empire, et que lui n'est pas parti dans les îles anglo-normandes, il n'a pas eu à se sauver, étant moins impliqué que Hugo dans la politique sous la Seconde République. Mais donc il a été révoqué de ses deux postes prestigieux de directeur de la section historique des archives nationales et de professeur au Collège de France. Donc, ça nourrit déjà cette situation marginale, finalement, en même temps que qu'il garde son aura, et surtout, évidemment, dans les milieux républicains. Il ne peut se sentir que comme un opposant et victime donc de l'oppression que représente le régime de Napoléon III, qui a écrasé la République, dont il était partisan. Et même sur le plan historique, il commence à être... contesté par l'école positiviste qui trouve qu'il n'est pas assez rigoureux dans sa manière d'aborder la matière historique. Donc, vous voyez, ça développe une sorte de possibilité, finalement, d'identification à la figure de la sorcière et même au savoir et aux procédures de savoir de la sorcière.
Mais ça veut dire que la sorcière est bien pratique parce qu'elle permet cette identification à toutes les personnes qui se sentent en marge. Alors, on l'a dit avec les femmes, même jusqu'à Jules Michelet. Non mais c'est cela, la sorcière, c'est la personne en marge.
C'est pour ça que ça corrige un petit peu cette assimilation, alors certes majoritaire, mais malgré tout peut-être un petit peu univoque de la sorcière à la femme. Chez Michelet, c'est plus compliqué, même si la physiologie féminine a chez lui aussi, est très marquée, a chez lui une... Si vous me laissez une minute, je peux dire que l'utérus, c'était une chose, mais chez Michelet, c'est plutôt les règles sur lesquelles il insiste en faisant des rapprochements avec toute une culture populaire qui, par exemple, le fait que quand une femme avait ses règles, on disait autrefois dans les couches populaires, elle voit. Et elle ne voit plus quand elle est ménopausée. Et Michelet transforme ça en disant « la femme est voyante ». Donc, il y a les règles ont un rapport avec le rythme lunaire. Et donc, font basculer la femme du côté des cates et des puissances de la nuit, du nocturne.
Oui.
Mais, comme je vous le disais, donc, l'identification femme sorcière ne bloque pas, malgré tout, une identification plus large, et Michelet, qui lui-même disait qu'il avait les deux sexes de l'esprit, se reconnaît aussi dans ce personnage. C'est lui la sorcière, d'une certaine manière.
C'est un cas à part, Jules Michelet, parce que dans les représentations de la sorcière, nous sommes plutôt dans des gens qui dénigrent ces personnages.
Alors, je sais pas si on veut parler de dénigrement. En tout cas, il y a le point commun avec Michelet, c'est que la sorcière, c'est vraiment un sujet qui permet de ne pas enfermer une forme dans une forme, enfin de ne pas enfermer une forme en fait. Donc, ce n'est pas fixe, et donc pour les artistes, c'est vraiment du pain béni, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment donner libre cours à leurs fantasmes sexuels d'ailleurs aussi, à leur imaginaire. Enfin, c'est vraiment un sujet qui permet toutes les libertés. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a vraiment des œuvres extrêmement novatrices, originales, qui exploitent aussi les matériaux, c'est-à-dire l'encre, par exemple. L'encre de Chine, très liquide, ou la lithographie, qui se développe beaucoup au XIXe siècle, dans des œuvres notamment de Léon Spilliart, qui a illustré un poème de la sorcière d'Émile Verhaeren. Ou des œuvres d'Aubrey Beardsley, un artiste britannique aussi, qui, grâce au noir et blanc, crée des formes, des femmes qui se mélangent à des... C'est aussi l'époque de Darwin, donc qui se mélangent à des cellules, à des plantes, à des origines de la vie. Donc en fait, c'est un sujet qui permet vraiment la liberté, la fantaisie, avant tout.
La liberté de la fantaisie en 1862, quand Jules Michelet écrit La Sorcière, est-ce que c'est faire acte de liberté et de fantaisie? Vous nous l'avez dit, Paul Petitier, Jules Michelet à ce moment-là est un peu en marge parce qu'il est en opposition avec le pouvoir de Napoléon III. Pourquoi écrit-il La Sorcière à ce moment-là?
Alors, il écrit La Sorcière parce qu'il a envie de parler des femmes, parce qu'il a déjà commencé en écrivant des... Alors, je dis traité, il n'y a pas vraiment de terme adéquat pour parler de ces petits livres, comme lui dit, ou de ces livres singuliers, comme les appelle Roland Barthes. Donc, il a commencé déjà à ruminer le sujet des femmes. Mais dans L'amour et la femme, ce sont des livres un peu bizarres et difficiles à lire à notre époque, parce que ce sont un peu des manuels, alors que dans lesquels le spécialiste va reconnaître peut-être des choses plus intéressantes que le lecteur qui commence avec ça. Mais je dirais que c'est une vision de la femme quand même très, très discutable de nos jours. Et La Sorcière, c'est aussi Michelet qui écrit contre Michelet. Le à rebours dont parlait Leïla tout à l'heure s'applique aussi au procédé d'écriture de ce livre. Et tout d'un coup, on va passer de l'évocation d'une femme finalement enfermée dans l'univers domestique et chouchoutée par son mari qu'il décrit dans L'amour et la femme à une créature sauvage ayant des pouvoirs extraordinaires et dominant la société populaire médiévale. Donc il y a ce retournement, donc il écrit cela parce que, pour moi, c'est ce qui me passionne dans cet auteur, c'est cette capacité à constamment revenir sur lui-même, faire retour sur ce qu'il a écrit pour en faire sortir des choses en apparence contradictoires, mais qui sont donc des relectures vivifiantes et qui le poussent plus loin.
Jules Michelet, La Sorcière, mais qu'est-ce qui fait une sorcière?
Nature, l'effet sorcière. C'est le génie propre à la femme et son tempérament. Elle naît fée. Par le retour régulier de l'exaltation, elle est sibylle. Par l'amour, elle est magicienne. Par sa finesse, sa malice, souvent fantasque et bienfaisante, elle est sorcière et fait le sort. Du moins, endort, trompe les maux. Tout peuple primitif a même début. Nous le voyons par les voyages. L'homme chasse et combat, la femme s'ingénie, imagine. Elle enfante des songes et des dieux. Elle est voyante à certains jours. Elle a l'aile infinie du désir et du rêve. Pour mieux compter les temps, elle observe le ciel. Mais la terre n'a pas moins son cœur. Les yeux baissés sur les fleurs amoureuses, jeune et fleur elle-même, elle fait avec elle connaissance personnelle. Femme, elle leur demande de guérir ceux qu'elle aime. Simple et touchant commencement des religions et des sciences. Plus tard, tout se divisera. On verra commencer l'homme spécial, jongleur, astrologue et prophète, nécromancien, prêtre, médecin. Mais au début, la femme est tout.
Jean Deschamps qui lisait cet extrait de La Sorcière de Jules Michelet, déjà c'est très beau. Bon, pour rappeler, non, mais Michelet écrit magnifiquement. Et puis, on retrouve ici ce que vous évoquiez, cet aspect de voyante, et puis l'importance de la nature. Alors, il y a une essentialisation, malgré tout, de la femme. C'est la nature ne peut pas échapper à ce statut de sorcière. Leïla Charbouët.
Oui, alors, dans l'art, on a l'impression que, en regardant un peu le corpus, qu'on a réuni pour l'exposition, que les caractéristiques folkloriques, entre guillemets, ou enfin, disons, qui étaient un peu figées, les stéréotypes associés à la sorcière, se diluent complètement autour de 1900, avec une image panthéiste de la sorcière, un peu en écho, enfin, c'est indirect, mais avec la vision de Michelet, où il y a vraiment une vision de terre-mère, de femme-nature, qui apparaît de plus en plus, Et voilà, des œuvres qui représentent des femmes dans la forêt, et notamment l'incantation de Paul Serruzier, d'ailleurs, qui a été choisi pour votre livre La pensée sorcière de Michelet, qui est dans l'exposition, qui clôt le parcours. On a trois femmes plutôt paysannes dans la forêt bretonne, qui vouent un culte païen, mystérieux à la nature, et qui sont comme l'écho inversé des trois sorcières de Macbeth, qui ouvrent le parcours, elles. C'est cette triade infernale qui est aussi le revers de la Trinité, en fait, le revers satanique. Et donc, il y a vraiment cette panthéisation de la triade de sorcières.
Ah, les sorcières de Macbeth, de Shakespeare, font authentiquement peur. Et surtout quand elles sont représentées, parce que c'est sombre et c'est assez agressif, alors que celles qui sont représentées sur la couverture de votre livre, Paul Petitier et La pensée sorcière, ont l'air plutôt sympathiques. Nous sommes dans une douce forêt bretonne, nous sommes ici avec juste une petite flamèche, hein. C'est pas un grand feu qui va tout détruire. On voit qu'il y a une transition de la sorcière. Est-ce qu'on peut dire que Jules Michelet est au cœur de cette transition ?
Je le pense. Alors encore que il faut rendre à George Sand, hein, ce qui lui revient. Elle-même a commencé, donc dans les deux romans que j'évoquais tout à l'heure, Jeanne, la petite fadette, à montrer cette connivence de ces personnages féminins avec la nature. Connivence avec la nature qui va de pair avec une forme d'opposition à un esprit, on dirait aujourd'hui extractiviste, un esprit libéral et capitaliste qui considère la nature comme un simple réservoir de ressources et de matières à exploiter. Et donc la puissance du texte de Michelet va cristalliser des choses dont je ne prétends pas qu'il les a toutes inventées, mais qu'il synthétise dans cette prose poétique dont on a entendu des extraits.
Oui, puis c'est un ouvrage de Jules Michelet, et donc un ouvrage de Jules Michelet est attendu, surtout quand il s'appelle La sorcière, on est en 1862. C'est vrai que le succès permet aussi de figer un élément. Avec cette date choisie pour le début de l'exposition, Lila Jarbouet, 1860. Donc, vous, le choix, il est fait de ces années 1860.
Ben, c'est-à-dire, on ouvre quand même avec Goya, et il y a aussi Delacroix qui est présent dans l'exposition, et puis voilà, je vous parlais d'Esmeralda de Notre-Dame de Paris. On peut pas quand même, donc on ouvre un peu avec le romantisme, mais c'est tellement immense, ouais, c'est un gouffre, c'est un puits sans fond, ce sujet, qu'on a vraiment voulu se resserrer, et parce que Michelet, justement, marque une forme de tournant en femme vraiment puissante, parce que la sorcière, c'est une femme associée à la nature, mais non plus comme un peu le cliché qui était plutôt négatif de la nature un peu versus civilisation. Là, c'est la nature parce qu'elle maîtrise ses secrets et que ce n'est plus vraiment la femme fleur, c'est vraiment la femme forêt, quoi, la femme...
Forêt qui fait un peu peur, hein, parfois, ou forêt complètement accueillante aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Sortilège, Jules Michelet, Métamorphose la sorcière.
Les jardins de ma mémoire, sur les eaux calmes d'un étang où les licornes viennent boire, j'ai vu tes yeux se reflétant. J'en redoute les sortilèges et ne m'approche qu'en tremblant, pour mieux me laisser prendre au piège que j'ai recherché si longtemps. Au jardin de la mandragore, je m'aventure chaque nuit, m'y promenant jusqu'à l'aurore, malgré ton ombre qui me suit. L'oiseau phénix au vol superbe peut disparaître et revenir, ses cendres répandues dans l'herbe de toi me font ressouvenir. Jardin bleu des espérances, j'ai vu danser les pans de nuit sous les arpèges du silence où va se perdre mon ennui. Mais au premier souffle de brise, le son de ta voix me revient et le songe soudain se brise de de notre amour ne reste rien. Et le songe soudain se brise, de notre amour ne reste rien.
Dominique Dimet qui chante les sortilèges dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Sam Bakias, avec aujourd'hui à la technique Nicolas Bonnet. Nous sommes toujours avec ces sorcières et particulièrement celle de Jules Michelet. L'ouvrage paraît en 1862. Paul Petitier, comment a-t-il travaillé pour préparer son livre ?
Il a travaillé vite en apparence. Il écrit La sorcière en quelques mois, dans une période difficile de sa vie, parce que ça coïncide avec la mort de son fils. Et La sorcière paraît à l'automne, quasiment le jour des morts. C'est pas pour rien, puisqu'il prête à la sorcière aussi ce pouvoir d'évoquer les morts et de consoler en faisant voir aux gens du peuple endeuillés revoir leurs morts. Bon, il travaille vite, mais il faut dire qu'il a, il a des éléments, il a de la matière derrière lui. Il travaille à rebours. Ça aussi, c'est très intéressant de voir comment il avait déjà dans ses cartons des textes pour l'histoire de France sur les affaires de possession depuis le 16e, 17e siècle. Et il a eu envie de réunir ces textes qui figuraient déjà dans l'histoire de France, sans doute dans une perspective anticléricale au départ, puisque Michelet est un grand anticlérical. Donc il voulait accumuler en somme un dossier contre les turpitudes des prêtres catholiques qui débouchaient sur des affaires de possession, parce que les nonnes, en somme abusées par les prêtres, devenaient ensuite, folles. Et ensuite, il y a un retournement. D'ailleurs, ça m'a fascinée de m'apercevoir dans son journal que le retournement de son point de vue sur la sorcière a lieu dans la nuit du 21 ou 22, si je ne me trompe, c'est peut-être 22-23, décembre 1861, la nuit du solstice d'hiver. Et là, il note dans son journal que cette nuit-là, soudain, son sujet lui est apparu autrement, et qu'il a éprouvé une grande pitié pour la sorcière et qu'il a eu l'idée d'écrire la première partie de son livre, qui est complètement différente de la deuxième, qui est sans doute la plus belle, la plus poétique, qui est une genèse de la sorcellerie depuis la fin du paganisme, le début du christianisme, jusque vers le XIVe siècle, qui, pour lui, est le moment, le point culminant du satanisme. Donc, il écrit cette première partie, qui est sans doute la plus passionnante, à partir de ce qu'il sait d'avance sur le Moyen-Âge, à partir des textes des démonologues, mais comme en s'efforçant de retrouver en creux ce sur quoi, à l'époque, les études sur la sorcellerie n'ont pas commencé. Il est pionnier aussi dans ce domaine. Il essaye de retrouver en creux dans les textes des démonologues ce qu'aurait pu être un culte populaire du diable.
Aïe.
Bien sûr, aujourd'hui, on va vous dire qu'est-ce que c'est que ça, fantasme. Mais je rapproche sa démarche de, si on veut, un point de comparaison contemporain de celle de Carlo Ginzburg, qui va dire que la sorcellerie diabolique est sans doute en majorité une invention des démonologues de la fin du XVe et du XVIe siècle, mais qu'il y a peut-être malgré tout les traces derrière ces fantasmes d'éclairs de cultes qui s'enracinent dans le passé le plus ancestral, peut-être animiste, peut-être eurasien, des traces d'une culture populaire magique qu'il s'agit de remettre au jour.
La sorcière d'Estaille, à Urogne, lorsqu'elle fut exécutée à mort, mourut si dédaigneusement que le bourreau de Bayonne, jeune et de belle forme, voulant extorquer d'elle, comme c'est la coutume, le baiser du pardon, elle ne voulut jamais profaner sa belle bouche, qui avait accoutumé d'être collée au derrière du diable. Dit davantage que lorsque le diable les connaît charnellement, elle souffre une extrême douleur, les ayant ouï crier, et au sortir de l'acte, les ayant vus revenir au sabbat toutes sanglantes, se plaignent de douleur, laquelle vient de ce que le membre du démon étant fait à écailles comme un poisson, elles se resserrent en entrant et se lèvent des pics en sortant. C'est pourquoi elles fuient semblable rencontre. »
Et à ce moment-là, on croise François Angelier de France Culture avec le tableau de l'inconstance des démons magiciens, des sorciers, c'est Pierre Delanque. Nous sommes au début du XVIIe siècle avec ces récits que Michelet utilise. C'est-à-dire que dans la temporalité qui nous intéresse autour des sorcières, il y a ce moment Michelet, 1862, cet après Michelet, cet avant Michelet, on l'a dit aussi, mais tout ça joue beaucoup sur des temps longs. Il y a une datation à faire, et on l'a bien dit, vous l'avez expliqué, Leïla Gerbouet, que ces sorcières évoluent, changent, mais tout est relié, c'est ça qui est très intéressant. Michelet lit ses textes anciens pour construire son propre récit. D'ailleurs, il en est fier d'avancer avec cette littérature-là. Non, allez-y, Paul Petitier.
Oui. La littérature des oppresseurs est d'une certaine manière les seuls documents qui sont, d'un accès facile, immédiat au moment où Michelet écrit. Ensuite, les décennies de recherche sur la sorcellerie à partir des années 1970. Il faut quand même noter que Michelet écrit en 1860 et que les grands chantiers de la sorcellerie vont être ouverts bien plus tard. Lui, il se reporte au démonologue en se disant, certes, c'est le point de vue des vainqueurs ou c'est le point de vue des dominants, mais je dois pouvoir, moi, avec, la connaissance que j'ai par mon milieu d'origine de la pensée populaire, essayer de décaper les choses et de comprendre ce qu'a été la sorcellerie populaire.
Et c'est ça, il y a ce côté populaire aussi qui nous intéresse. Et on sait combien le peuple chez Michelet est un aspect important de toute sa réflexion.
Mais en art, en fait, c'est ça qui était un peu frappant dans les recherches, et qui avait été souligné d'ailleurs par Vincent Robert, un des auteurs au catalogue qui a travaillé sur La petite fille de la sorcière et qui a travaillé sur George Sand. C'est carrément une dichotomie, en fait, entre la réalité de la sorcellerie populaire et de la voix des opprimés, entre guillemets, et la représentation, en fait, des sorcières qui est complètement fantasmée. Voilà, d'où le premier sous-titre de l'exposition, Fantasme. Parce qu'en fait, les sorcières sont presque toujours représentées complètement imaginaires, ou des alchimistes, des savantes aussi à la fin du 19e siècle. Donc une version beaucoup plus positive, mais très très éloignée de la réalité en fait.
Fantasme, premier sous-titre de l'exposition, sachant que les autres sont savoir et liberté. Savoir, c'est aussi tout cet aspect historique, ce que nous disait tout à l'heure Paul Petitier, c'est que même quand Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris, il a une démarche d'historien, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, il va aux sources, il va avoir les documents pour construire sa propre histoire. Et c'est en cela que tout est relié entre la littérature et l'histoire. Qu'en est-il d'ailleurs de ce travail préparatoire? On a conservé des documents, hein. Vous avez évoqué le journal de Jules Michelet, le manuscrit de la sorcière également.
Oui, qui a été prêté par la Bibliothèque historique de la ville de Paris dans l'exposition, voilà, qui ouvre. Donc, on expose le Maleus, un exemplaire ancien du Maleus Maleficarum, et donc le marteau des sorcières dont vous avez parlé, et ensuite donc le manuscrit qui est vraiment très beau, hein, très, très 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 belle écriture.
Et lisible, ce qui n'est pas.
Écriture lisible, et puis dans cette histoire-là, il y a quand même un aspect, on sait très bien hein, que l'histoire s'écrit par l'invisibilisation des femmes. Mais cette histoire de la sorcière de Jules Michelet, c'est aussi en partie l'invisibilisation d'une femme, celle qui est au plus près de lui, qui est son épouse, et qui contribue aussi à cette histoire-là. Il ne faudrait pas l'oublier.
Oui, Athénaïs Michelet, dont nous parlions justement, parce que c'est une des premières éthologues du chat, en fait. Le chat qui a un rôle très important dans l'histoire des sorcières, puisque c'est le monde d'en bas, en fait. Partir du chat, c'est partir d'en bas, c'est remettre en cause l'anthropocentrisme, voilà.
Oui, alors invisibilisation ou transfiguration, parce que effectivement, si on joue le jeu des identifications, est-ce que cette sorcière n'est pas un peu cette Athénaïs qui porte le prénom d'Athéna, et cette Athéna, puisqu'elle représente aussi la sorcière de Michelet, la raison, mais la raison qui n'est pas limitée à un rationalisme étroit, hein. Cette Athénaïs qui aimait tant les chats et qui avait tant de pouvoir sur Michelet aussi.
Et qui connaissait très bien les plantes aussi. Elle connaissait très bien.
Qui s'intéressait aux plantes. Je ne sais pas si elle les connaissait très bien, mais en tout cas, elle s'intéressait à la nature et aux plantes alpestres.
elle est à côté de lui au moment de l'écriture. On peut imaginer qu'elle a collaboré à l'écriture de La Sorcière. En tout cas, dans les échanges du quotidien, peut-être autour des plantes, cet intérêt pour la nature. Comment ça se construit tout ça? On ne sait pas. Ça, c'est la limite aussi du chercheur,
aussi,
de la chercheuse.
On le sait. Non, elle n'a pas contribué là pour le coup. Elle est sa collaboratrice pour les livres d'histoire naturelle qu'il écrit en parallèle. Et dans le livre, j'essaie de montrer qu'il y a justement une filiation. Si la sorcière est la femme de la nature, si je puis dire, ça tient aussi à ce discours sur la nature que Michelet élabore en parallèle et avec sa femme. Hein. Donc le fait de prêter à la femme une connaissance de la nature, c'est une connaissance plutôt livresque chez Athénaïs. Elle lui sert, elle lit des livres de naturalistes de son époque. Mais aussi, elle est celle qui représente la force de l'amour, dont le début de La Sorcière qui a été lu tout à l'heure par Lay, la femme est magicienne à cause de l'amour. Dans le roman du 19e, les sorcières comme Esmeralda, donc comme la petite Fadette ou comme d'autres, leur sorcellerie, c'est aussi donc celle de la passion qu'elles savent susciter. Et Michelet est comme enivré de sa femme au moment où il commence l'écriture de La Sorcière. Donc, elle est là par cette aura, hein, amoureuse.
La sorcière, femme fatale.
Oui. Mais elle qui fit Satan, qui fit tout, le bien et le mal, qui favorisa tant de choses, d'amour, de dévouement, de crime, que devient-elle? La voilà seule sur la lande déserte. Elle n'est pas, comme on dit, l'horreur de tous. Beaucoup la béniront. Plus d'un la trouvait belle. Plus d'un vendrait sa part du paradis pour oser rapprocher. Mais autour, il est un abîme. On l'admire trop et on en a tant peur de cette toute-puissante Médée, de ses beaux yeux profonds des voluptueuses couleuvres de cheveux noirs dont elle est inondée. Seule, à jamais sans amour, qui lui reste? Rien que l'esprit qui se déroba tout à l'heure. Eh bien, mon bon Satan, partons, car j'ai bien hâte d'être là-bas. L'enfer vaut mieux, adieu le monde.
Alain Cuny, ben oui, Alain Cuny quand même, qui lisait ici cet extrait de La Sorcière de Jules Michelet sur France Culture en 1964. Elle est étonnante, cette sorcière-là. Et puis, dans la construction du livre, vous l'expliquiez, Paul Petitier, il y a deux parties. Cette première partie qui traverse les siècles dispose aussi d'un procédé littéraire intéressant, parce que ce n'est pas un livre d'histoire avec une chronologie qui se suit. Quelque part, c'est ça, sauf qu'il y a un personnage qui fait le lien entre tous ces chapitres, enfin, toutes ces histoires.
Oui, c'est l'audace de Michelet, il la commente d'ailleurs, hein, dans son livre, que d'avoir voulu présenter cette histoire à partir de ce qu'il appelle un petit fil biographique, l'histoire d'une même femme qui aurait traversé les siècles. Donc on l'apprend. Alors la chronologie est un peu floue. Hein. Tantôt il dit que c'est une femme qui l'a fait vivre 300 ans, tantôt il va jusqu'à 1000 ans. Et c'est vrai que la première partie n'est pas sur ce plan très, très clair, mais d'une certaine manière ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir voulu incarner, hein, dans une figure, dans un personnage, dans une entité morale, hein, ce développement de la sorcellerie. Alors ce fil biographique lui sert à relier des phénomènes très divers et à montrer une continuité, une maturation de la sorcellerie.
Oui, cette maturation de la sorcellerie, elle est fascinante à étudier parce que ici on a plein d'éléments qui se mettent en place. Et le travail d'historien de Jules Michelet qui nous montre comment cette sorcière globalement tolérée devient l'absolue hérétique et puis celle qui est possédée et qu'il faut condamner. Et puis dans le même temps, ça va beaucoup plus loin parce que vous nous l'avez dit, c'est une autre vision des femmes dans la société et puis simplement une réflexion sur comment être ensemble. La sorcière, c'est la notion de l'exclusion, c'est le paria. Ces sorcières-là, elles sont difficiles, elles inspirent à partir de là. C'est un peu en cela, Leïla Gerbouet, qu'il y a tant d'artistes qui se sont saisis des sorcières, parce que ils en font un peu ce qu'ils en veulent.
Oui, puis à une époque où le monde de l'art était quand même très masculin, la sorcière, c'était aussi l'autre. C'était, puisque c'est avec Michelet, ça devient la femme, entre guillemets. Donc, c'est s'intéresser à l'autre, à l'inconnu. Et c'est ça aussi qui intéresse aussi beaucoup les artistes. Et des femmes s'emparent du sujet vers la fin du siècle et traitent plutôt la sorcière, sans essentialiser évidemment, hein, mais les rares représentations de sorcières par des femmes, on en a trouvé dans l'illustration, notamment britannique, et dans la peinture, des femmes vraiment qui sont des sorcières qui sont présentées plutôt en alchimiste, un peu une version féminine de Saint Jérôme, simplement elle n'est plus avec son lion, mais avec son chat noir.
C'est autre chose, mais c'est vrai qu'il y a toujours un chat, on peut y mettre un corbeau aussi.
Non, mais c'est très important parce que c'est quand même, la sorcière est une... Alors bien sûr, il y a tout le pôle, le corps, la sexualité qui est important, mais qui n'est pas délié de la dimension, comment dire, des capacités intellectuelles de la femme. Et c'est rendre à la femme ses compétences, en somme, alors médicales, ses compétences propres dans le savoir. Alors quand je dis la femme, je parle comme Michelet, hein, disons. Alors donc aux femmes, leurs compétences intellectuelles et médicales. Mais je voudrais, si vous me le permettez, rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Une chose qui est fondamentale, c'est de dire que le geste de Michelet, c'est de raccorder l'histoire de la sorcellerie à l'histoire générale. Parce qu'au XIXe siècle, il y a eu beaucoup d'ouvrages sur la sorcellerie, hein, des auteurs oubliés maintenant, mais qui prennent la sorcellerie dans l'Antiquité ou la magie dans l'Antiquité et qui vont jusqu'au XIXe siècle, mais sur le mode de l'histoire anecdotique, voire aberrante. Histoire des superstition, et c'est une histoire complètement détachée de l'histoire générale. Or, ce que Michelet montre, et c'est ça qui, à mon sens, fait de son œuvre une œuvre matricielle pour l'histoire future de la sorcellerie telle qu'on l'a faite au XXe siècle, c'est de montrer que le phénomène de la sorcellerie dit des choses, dans le fond, sur le cours général de l'histoire et amène à relire l'histoire générale et les mécanismes de domination et du pouvoir, tout simplement.
Michelet, l'histoire, la sorcellerie et Roland Barthes.
Comme participant à la science historique, la sorcière dépend évidemment de l'idée que Michelet se faisait de l'histoire. On le sait, il voyait l'histoire sous la forme d'un progrès vers la lumière, mais un progrès nullement rectiligne, coupé de retours, d'obscurité, un progrès en spirale, selon l'image qu'il avait empruntée au philosophe napolitain du XVIIIe siècle, Vico, et que Michelet avait traduit dans sa jeunesse. Comme fonction historique, du Moyen-Âge au XVIIe siècle, la sorcière suit cette spirale. D'abord bénéfique lorsqu'elle guérit par une médecine naturelle les grandes maladies du Moyen-Âge, elle se fait maléfique, révoltée, au moment des grands sabbats et des messes noires, pour finir en sorcière professionnelle. Mais si la sorcière se dégrade, cela ne veut pas dire que l'histoire s'obscurcisse. C'est tout simplement que la fonction bénéfique qu'elle détenait à l'origine et qui était de consoler, de guérir, passe à une nouvelle figure progressiste, éminemment laïque, bien entendu, dans les temps modernes, celle du médecin.
Et voilà, on a Roland Barthes ici qui évoque cette sorcière. Cette translation, cette métamorphose de la sorcière, on la voit s'opérer. Et Michelet, c'est un moment dans ce long processus, mais un moment très important, avec ce jeu constant entre l'attraction, la répulsion, le filtre d'amour, mais le mauvais sort. C'est un va-et-vient, si bien qu'on est toujours un peu perdu. Mais le filtre d'amour est aussi présent, on le voit bien dans l'exposition.
Oui, effectivement, l'amour, comme disait Paul est omniprésent dans le pouvoir de la sorcière. Et donc, le tableau qui est la couverture du catalogue et l'affiche d'exposition, un tableau par la peintre préraphaélite Evelyn de Morgan, qui représente de manière très, très ambiguë la sorcière, à la fois en figure bénéfique, positive, érudite, et en même temps en figure maléfique à cause de ce fameux chat, et puis de la potion qui ressemble à un poison. Et d'ailleurs, le thème du poison revient de manière très politique au XIXe siècle avec la commune. Et les pétroleuses et les communardes sont représentées aussi sous forme de sorcières, figures d'empoisonneuses modernes.
Comment est reçu l'ouvrage de Jules Michelet? Alors, il paraît en 1862, on entend sa portée, on voit bien qu'il a un effet. Il est bien accueilli, cet ouvrage-là?
D'abord, il a des ennuis à la parution, puisqu'il devait paraître chez Hachette et que Hachette, au dernier moment, met au pilon l'édition de peur d'avoir des ennuis avec la justice, notamment à cause des propos, crus, Certains diront obscène, de Michelet, dans, et surtout de la mise en cause de la religion catholique. Donc Michelet trouve in extremis un autre éditeur, Dantu. La sorcière, évidemment, tout ce bruit autour de la, enfin, toutes ces difficultés de parution vont engendrer un attrait de scandale. La première édition part très très vite. Mais après, Michelet préfère avoir recours à l'éditeur belge Lacroix, qui est l'éditeur de Victor Hugo, des opposants au Second Empire, de Proudhon. Et les éditions suivantes de La Sorcière donc paraîtront en Belgique, chez Lacroix, la librairie internationale, et évidemment seront vendues en France. Il y a de nombreuses rééditions jusqu'en 1865. Mais le livre n'est pas très bien, mis à part ce succès de scandale, il n'est pas très bien compris. C'est vrai que c'est un livre assez difficile. Et il choque d'un côté comme de l'autre. Alors il va choquer évidemment la presse catholique et la presse conservatrice qui vont jeter des sauts d'injures sur le livre en disant que c'est le produit d'un vieillard libidineux. Mais il va aussi, comment dire, interloquer les amis de Michelet, les républicains et les positivistes qui vont dire qu'est-ce que c'est que cet ouvrage qui ne dénonce pas l'obscurantisme mais qui a l'air de prendre au sérieux la sorcellerie et qui mythifie la figure de la sorcière.
Eh oui, des deux côtés, ça ne plaît pas, quoi.
Voilà.
Ça ne va pas assez loin avec cette question, bien sûr. C'est une portée beaucoup plus lointaine, mais qui a toute sa pertinence. Est-ce un ouvrage féministe ?
Pour moi, La Sorcière, c'est un peu le premier livre dans lequel l'histoire de la femme est autonomisée. Et ce n'est pas inintéressant. Finalement, si on pose la question, y a-t-il une histoire des femmes ? Le premier historien à y répondre, c'est Michelet. Et il y répond à travers La Sorcière, en donnant à la femme une fonction médiévale, une fonction moderne, enfin... Et il y répond ensuite, d'ailleurs, il y répond à travers le peuple, il y répond à travers
la femme, l'amour.
Et ensuite, lorsque dans l'Évangile éternel, il parle de la femme du 19e siècle, alors je pense qu'il évoque alors celle de la deuxième moitié du siècle, la femme soumise à l'industrie, en disant que c'est le siècle du malheur de la femme, la deuxième moitié du siècle, c'est le siècle du malheur de la femme. Il débouche sur ce siècle qu'il est, qu'il a en horreur, ce 19e siècle dont il ne peut parler que comme chroniqueur et pas comme historien, mais au cœur duquel il place quand même la femme.
Madeleine Rébériou, l'historienne sur France Culture. Au moment où, Leïla Gerbouet, vous construisez cette exposition dont vous êtes co-commissaire avec Sophie Kervran au musée de Pont-Aven, Sorcière 1860-1920, Fantasme, Savoir, Liberté, vous faites en fait une histoire aussi des femmes. On le voit bien, c'était un moment de l'histoire des femmes.
Oui, et c'était l'inspiration de Michelet aussi, c'est cette volonté de ne pas, de ne pas rentrer dans les clichés. Au fait, il est dans la nuance toujours, et je pense que c'est très important. Et donc, c'est une époque misogyne, mais on voulait montrer toutes les complexités. Enfin, tenter de montrer et ne pas rentrer dans une lecture polémique. Et on a voulu aussi ouvrir l'exposition à des artistes du 21e siècle qui s'intéressent au thème de la sorcière, justement, parce que Michelet a vraiment une résonance contemporaine. On pourrait dire pionnier d'une forme d'écoféminisme, intérêt pour justement cette histoire occultée, cette volonté aussi de se placer avec les personnes dont il parle et dont parle Jeanne Favre-Saada aussi, qui a été un modèle aussi pour l'exposition. Et donc, on consacre aussi une partie entière dans le catalogue à la fin, une ouverture qui s'appelle « Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour » avec des textes qui montrent les échos, au fait, de la sorcière à partir des années 70.
Paul Petitier, La Sorcière de Jules Michelet, féministe ? Bah non, quand même pas, ce sera anachronique.
Surtout je ne dirais pas que c'est un livre féministe de manière immédiate, mais en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, Michelet écrivant contre lui-même, tout en partant d'une vision de la femme qui est malgré tout stéréotypée et peut-être essentialisée, va introduire du jeu par rapport à ses propres préjugés, disons, et c'est ça qui est passionnant.
Merci vivement à toutes les deux. Donc, merci. La Sorcière, la pensée sorcière, c'est aux éditions du CNRS, Paul Petitier, évidemment. L'exposition au musée de Pont-Aven, partenariat France Culture. Prochain épisode dans le cours de l'histoire, sorcière, l'invention d'une icône féministe. On va bouger son nez.
Tu entends ? Je suis une sorcière, une vraie, qui jette des sorts, se promène dans les airs et se sert d'un chaudron magique. Pour quelle raison voudrais-tu que je te mente ?
Écoute, si tu es une sorcière, où est ton balai ? Où est ton chaudron ? Et qu'est-ce que tu viens faire ici ce soir ?
Ma sorcière bien-aimée, bien sûr, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Lalou, Maël Vincent Randonnier et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.